Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Salut, c'est Julia Layani, j'ai 28 ans et je suis communicante.
Je m'appelle Élise Goldfarb, j'ai 28 ans et je suis également communicante.
Salut, moi c'est Flora Gabali, j'ai 27 ans et je suis entrepreneur. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Coalition et qui aide les entreprises à conduire leur transition écologique et sociale.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut quand même préciser le fait que toutes les trois, on est meilleures amies, donc pourra paraître un petit peu insupportable à certains moments parce qu'on va se reprendre, parce qu'on va se charrier, mais c'est normal, on a un lien, on se connaît toutes les trois depuis quinzaine d'années, on connaît nos familles par cœur, on était toutes à peu près au lycée ensemble, on se connaît tous à peu près depuis la troisième seconde.
Beaucoup d'à peu près.
Et voilà, et donc on se charrie à longueur de temps.
Donc j'ai deux grands-parents égyptiens, deux grands-parents qui sont italo-tunisiens. Donc en gros, ça se passe côté bassin méditerranéen, quoi, pour moi.
Moi, donc Élise, je suis, j'ai une famille qui est issue plutôt de l'immigration de l'Est, de l'Europe de l'Est, sachant que tous mes grands-parents non issus, on va dire, de France, non français de souche, parce que j'ai une grande partie de ma famille qui est française de souche, comme on dit, je sais pas qui dit ça, mais voilà, ça, c'est des juifs de France.
Des racistes.
Des gens, ma mère, quand je dis.
Des F de souche, moi j'ai tout le temps
que F de souche, c'est moi, que des racistes qui disent ça.
Mais moi j'ai tout le temps que Élise, elle est F de souche.
franchement,
c'est ma seule pote F de souche.
Quand je dis à ma mère, maman, depuis quand ta famille, ils sont en France, ils ont tellement ce truc de besoin d'être français qu'elle dit, on est en France depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que du côté de mon grand-père, il venait de Varsovie. Et du côté de mon père, tout le monde vient de Varsovie aussi, de Pologne. Voilà, donc on est des gros Polaques. Mi-Polaques, mi-Juifs de France. Donc c'est des Juifs qui sont arrivés en France à l'époque des Romains. Donc c'est vraiment, ça remonte à il y a très 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 longtemps.
Alors moi, c'est vrai que la question du français de souche peut se poser parce que je suis issue d'un couple mixte. Ma mère est française. Mes deux grands-parents maternels viennent de Lozère et de Bretagne. Et également mon père est né en France, mais mes grands-parents étaient français d'Algérie. Ils vivaient dans la région du Mzab, qui est la zone en fait la plus au sud de l'Algérie, entre l'Afrique noire et le Sahara. Enfin, juste avant, ça s'appelle, c'était un endroit qui s'appelle Gardaïa, c'est les portes du désert, et c'est une zone franche. Où effectivement c'était genre tax free quoi, donc c'était une zone où on pouvait faire beaucoup de commerce. Et j'ai appris récemment dans un entretien avec Benjamin Stora que les juifs du Mzab, puisque ma famille paternelle est juive, n'étaient pas français. Donc ça, je suis encore en train de rechercher pourquoi les juifs du Mzab n'étaient pas naturalisés français depuis le traité Crémieux de 1870. Bon voilà, c'est en questionnement. Donc est-ce que je suis française de souche ou pas? Ou est-ce que je suis française de souche depuis 1870 ou pas? Je ne sais pas. Voilà.
Ma mère, elle était à Tunis. Elle est venue en France à 2 ans. Et je dirais que mes grands-parents, ils sont venus à Paris pour des questions d'opportunités professionnelles, parce qu'ils étaient les premiers diplômés de leur famille. Il faut savoir que bon, mon grand-père, c'était déjà le premier à avoir le bac dans sa famille, mais surtout ma grand-mère, que je salue si elle nous écoute, elle s'est battue dans sa famille pour pouvoir faire des études, passer son bac. Et en fait, elle a dû mentir à son père pendant des années en lui disant qu'elle continuerait ses études, etc. Il voulait pas du tout, il voulait qu'elle s'arrête pour s'occuper de la maison. En fait, à l'époque, les femmes faisaient pas du tout d'études. Et au moment, elle a réussi à aller comme ça jusqu'au bac. Et au moment où elle a eu le bac, il lui a dit « Bon, ça y est, maintenant, terminé, t'as le bac, c'est déjà énormissime. » Et en fait, elle a dit « Non, 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 je vais m'inscrire en études supérieures. » Il a dit « C'est hors de question. » Elle a réussi à négocier pour faire des études de dactylo. C'était les secrétaires de l'époque qui tapaient. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait croire à sa famille. Et en fait, elle s'est inscrite en fac de droit et d'économie. Et elle était la seule femme de son amphi en fac de droit et d'économie. Donc là, elle s'est vite mariée avec mon grand-père parce qu'il fallait absolument qu'elle ait une autre autorité, en fait, masculine, c'est ça. Hein. Elle, elle dit qu'elle s'est mariée pour changer l'autorité patriarcale dans son... Enfin voilà, que ça passe de son... Le pouvoir passe de son père à son mari. Et d'ailleurs, mes grands-parents nous racontaient toujours qu'elle avait dit à mon grand-père « Tu me laisseras faire ce que je veux ? Bon, bah d'accord, alors on se marie. » C'est un peu comme ça que ça s'est fait, leur couple. À la fac de droit et d'éco, du coup, elle est tombée enceinte. Et en fait, elle allait à 8 mois de grossesse à son oral de fin d'études dans une fac où il n'y avait que des hommes. Donc, elle créait clairement la différence. Et du coup, ça a fait d'elle un peu un ovni. Et je sais que quand ils sont arrivés en France, il y avait, je pense, des opportunités professionnelles quand même hein, à la base, puisque du coup, c'était des gens diplômés, ce qui était très rare à l'époque. Je sais que ma grand-mère, elle nous raconte toujours cette histoire. La première chose qu'elle a fait, c'était d'aller aux Galeries Lafayette. Elle n'avait jamais vu un grand magasin, et de s'acheter une mini-jupe, et après de se promener sur les grands boulevards avec sa mini-jupe. Donc, c'est vraiment une conquête de la liberté. Paris, pour mes grands-parents à l'époque, donc on est dans les années 50, puisqu'ils sont nés dans les années 30, donc ils avaient une vingtaine d'années. Et c'est vraiment de se dire, Paris... Enfin, moi, j'ai été grande... bercée dans mon enfance par ces récits de Paris, c'est la ville de la liberté, c'est la ville lumière. Après, c'est devenu des gros 68 arts. Donc, voilà. Ouais.
L'histoire d'immigration de ma famille, elle est beaucoup plus ancienne parce qu'en fait, l'immigration polonaise, elle est arrivée avant toutes les vagues migratoires de 62, enfin, post-colonisation, on va dire. Les Polonais, je crois que du côté de ma mère, le côté polonais, ils sont arrivés en 1880 de Varsovie. Et du côté de mon père, ils ont dû arriver 20 ans, 30 ans plus tard, donc vraiment au début du 20e siècle. Et c'était eux, de base, c'était les Polonais et les Italiens, les immigrés. Ceux qui faisaient, on va dire, chier les Français de souche, c'était les Italiens, les Polonais, ceux qui venaient de l'Est. Et donc, ils étaient... c'est des familles bizarres parce que quand tu quittes la Pologne, moi du côté de mon père en tout cas, on n'est pas du tout famille. Ils ont un truc de, ils ont été déracinés, ils se connaissent pas. Tous les cousins de mon père, on les connaît pas. On sait qu'il y en a qui sont partis avant la Shoah vivre en Amérique du Sud, mais ils ont totalement coupé les ponts. Il y a ce truc vraiment de honte de qui ils sont, parce que je pense que En début du XXe siècle, il y avait c'était pendant la colonisation, mais la Pologne, c'était pas un territoire colonisé, mais il y avait quand même cette honte hyper. On n'est pas français, donc on est vraiment. Il faut qu'on se taise, quoi. Donc, il y a vraiment un côté silencieux du côté de mon père, où je ne sais rien, où mon père n'en parle jamais. Mes grands-parents n'en ont jamais parlé non plus. Ils avaient même honte d'être juifs, parce qu'après la Shoah, c'était carrément pas du tout question de dire qui on était. Donc. On va dire que le seul héritage historique que j'ai, c'est le yiddish, parce que mon père parle yiddish presque couramment et que depuis que je suis petite, j'entends des mots.
Tu
sais pas ça. Ouais, j'entends des mots et genre, tu sais, on a des petits...
Déjà, ta mère, c'est quoi vos petits noms
propres ? Oui, elle nous appelle genre Bobelai. Quand on avait une peluche, elle lui donnait un nom yiddish, mais ma mère. Mais alors que ma mère est pas du tout... elle parle pas yiddish, mais elle prenait ça de mon père. Mon père, il a beaucoup fréquenté des milieux... avec des potes à lui, un peu écrivains polonais, qui parlaient yiddish. On est bercé par la culture polonaise, mais il y a vraiment un silence, nous. On est dans le silence. Donc mon père, il se considère parisien, parigot tête de veau.
Depuis que je suis petite, mes parents ont toujours refusé, par exemple, qu'au petit déjeuner, on mange des céréales, parce qu'on est en France, donc on mange français, on a le meilleur fromage, le meilleur pain, donc on mange du pain et du fromage de chèvre au petit déj. Il y avait ce truc d'assimilation, de volonté d'assimilation extrême, de il faut qu'on atteigne des objectifs français. Voilà. Mais ils sont quand même en France depuis longtemps, et je crois même, mais je sais pas, parce que mon père ne nous dit rien, que pendant la Shoah, le côté du côté de mon père, c'était des Polonais un peu véreux, parce que quand t'es déraciné, que t'arrives en France et que t'as rien, bon bah tu fais du trafic. Et je crois même que pendant la Shoah, ils étaient cachés à Paris et qu'ils faisaient du trafic pour s'en sortir. Voilà. Mais je ne sais pas, parce qu'une fois de plus, quand j'en parle à mon père, c'est tellement tabou, ouais, que il ne sait pas.
Moi, mon père est né en France. Il est né en France en 1958. Il a été nommé Charles pour évidemment en hommage à Charles de Gaulle. Ma grand-mère donc a accouché de son 10e enfant et c'était mon père. C'est le premier enfant de ma famille, de sa famille à être né en France. Les 9 autres d'avant sont nés en Algérie, entre Alger et Aflou, Gardaïa, donc vraiment dans des zones assez diverses en Algérie. Eux, ils sont venus, ma famille, hein, les Layani, sont venus un peu avant 62. La grande vague migratoire des Français d'Algérie, des Juifs d'Algérie, c'était vers 62. Donc, des gens qui ont attendu que vraiment ça éclate, tous les conflits, etc., pour fuir l'Algérie. Moi, mes grands-parents étaient dans un milieu extrêmement pauvre. Il y avait vraiment très, très peu de richesses. Enfin, ils faisaient, voilà, quelques... ils étaient un peu dans le commerce, etc., mais c'était vraiment... très précaires, et ils sont partis en 58, eux. Alors, il faut savoir que à ce moment-là, ils avaient le choix entre soit partir en Israël ou partir en France. C'était vraiment les deux choix pour les Français d'Algérie juifs qui n'avaient pas d'argent. Ceux qui étaient un peu plus aisés à Alger avaient des points d'attache en France, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile d'aller en France. Mais en tout cas, pour eux, il y avait aussi ce nouvel Eldorado qui était Israël, et qui était une possibilité. Or, bon, bah, ils ont pas choisi cette possibilité. Ils ont été en France. Ils sont atterris, voilà, en 58 à Romainville, entre Bagnolet et Romainville, dans des petites maisons où ils vivaient à 10, 12, dans des toutes petites maisons. Mon père, il me racontait que il est né, il dormait à 7 dans une chambre. Enfin, c'était un truc que nous, génération d'après, on ne connaît pas. Donc ça, c'est l'histoire de l'immigration de ma famille. Bon, après,
mais ce qui est stylé aussi avec ta famille, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que donc ton père, c'est le premier à avoir eu un prénom français parce que c'est le premier à être en France. Ouais, ouais. Tous ses autres oncles et tantes ont des prénoms complètement arabes.
Mm-hmm. C'est quoi leur prénom? En fait, oui, c'est merci Élise, c'est une très bonne.
Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que le petit frère de son père s'appelle Édouard. En fait, donc Charles et Édouard, les deux seuls qui sont nés en France, ont des prénoms français. Ouais. Et tous les autres, ils s'appellent Pérez, Messaouda.
Tous les. En gros, tous les autres enfants, les aînés de mon père s'appellent Mézal, voilà, exactement, Messaouda, que des prénoms Myriam, etc., que des prénoms soit hébraïques, soit de culture vraiment arabe. Arabe. Moi, mes grands-parents paternels, j'ai eu très peu d'interactions avec eux, puisque déjà, ils parlaient vraiment un français très léger, quoi. Ils parlaient plus arabe que français. Et comme mon grand-père est né en 1917, si tu veux, il a toujours été super vieux. Et moi, je suis la troisième enfant du dernier enfant. Donc, j'avais une grande différence d'âge avec eux. Donc, j'avais très peu d'interactions avec eux, mais je comprenais qu'ils parlaient arabe. Et je comprenais pas trop pourquoi, mais voilà. Et mes autres grands-parents maternels, donc les Français, ceux qui étaient de Lozère et de Bretagne, eux donc ont eu un peu un choc des cultures quand les deux familles se sont rencontrées. C'était vraiment des Français qui venaient, eux, de familles de fermiers, les deux. C'est pour ça que je dis que c'était dans des territoires très français, parce que j'ai été en Lozère, dans le village de ma grand-mère, mais c'est vraiment des bourgs de 300 habitants perchés au haut d'une montagne avec un Christ sur la place et... une petite église, et enfin, c'est vraiment le bourg français, quoi. Et donc, il y a eu un espèce de choc des cultures quand les deux familles de grands-parents se sont rencontrées. Mes grands-parents maternels n'avaient jamais vu de juifs de leur vie. Ils savaient pas ce que c'était, ils comprenaient pas trop. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est fait, mais voilà. Donc, ça a été un peu un choc des cultures.
j'ai jamais trop demandé. Enfin, tu sais, quand t'es enfant, ça te saoule les histoires de ta famille et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais chez mes grands-parents, ils en parlaient. Genre, ils nous obligeaient à écouter ce qu'ils avaient à dire. Mon grand-père, il racontait tout le temps la guerre, tout le temps l'histoire des Juifs. Mais c'est vrai que du côté de mon père, par exemple, enfin, du côté de ma mère, ils étaient très vocaux sur leur histoire. D'ailleurs, ma mère, elle a eu une énorme crise il y a 4 ans. Elle est allée sur MyHeritage. Elle a retrouvé la moitié de ma famille qui était partie vers 1880, pareil. Enfin, en tout cas, quand ils sentaient que les Juifs commençaient à se faire un peu bolos en France, il y en a beaucoup qui sont partis de Pologne et de France aux États-Unis et on les a retrouvés il y a 4 ans. Donc, on s'est séparés pendant presque une centaine d'années et on les a retrouvés. Donc, ma mère était très vocale à ce sujet, enfin, du côté de ma mère, et du côté de mon père, silence complet. Et même aujourd'hui, alors que ça commence à m'intéresser, enfin, quand ça a commencé à m'intéresser, on va dire vers 20 ans, j'avais très peu d'infos.
Moi, mon histoire familiale, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, je dirais que c'est surtout une série d'anecdotes que j'ai compilées un peu à ma manière. En fait, par exemple, mon grand-père, il me racontait que quand il avait 9 ans, c'était la guerre. Et en Tunisie, les Juifs étaient plutôt protégés, ça allait. Mais il y avait quand même un soldat allemand qui avait débarqué dans son village, Madia, un village en Tunisie qui est d'ailleurs sublime et qui est un des plus beaux endroits du monde, à mon sens, parce que j'y suis retournée. Une fois, il m'a raconté un peu comme ça qu'il y avait un soldat allemand qui était là et qui, tous les mois, allait racketter sa famille. Et qu'en fait, ça les a profondément appauvris. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient quelques trucs. Et voilà, par exemple, ça, c'est une anecdote qui m'a marquée. Je lui dis, mais c'est horrible. Et il me dit, oh, tu sais, c'était comme ça. Lui, il me raconte ça parce qu'il l'a vécu à 9 ans. Enfin, c'est une anecdote. Et du côté de ma grand-mère, elle me raconte que... De l'autre côté, donc ils sont égyptiens. Et elle me raconte, par exemple, que elle et mon grand-père, ça a été un mariage arrangé, parce que quand Nasser a pris le pouvoir en 56, ils ont reçu une lettre, ils avaient un mois pour quitter le territoire, ou sinon, ils se faisaient buter, genre vraiment un truc un peu glauque. Et elle me raconte que c'est comme ça qu'elle a connu mon grand-père. Donc c'est assez ouf quand même, parce qu'on est tous issus de ce truc qui a eu lieu vite fait sur un bout de papier. Ils les ont mariés en une semaine et hop, ils ont pris le bateau pour arriver à Nanterre, dans des HLM qui étaient mis à disposition par la France pour les exilés égyptiens. Et en fait, je me demande quelle est la part d'objectif et de subjectif dans ce que moi, je considère être mon bagage d'origine, dans le sens où c'est une compilation d'anecdotes que j'ai faites, parce qu'il y a des anecdotes qui m'ont plus marquée que d'autres. Et donc, en fait, je me suis un peu créé mon propre récit. Et par exemple, ce que je vous disais sur ma grand-mère féministe qui est arrivée de Tunisie pour s'acheter une mini-jupe, c'est un peu moi qui, garde ce récit et on fait quelque chose qui est un bagage, en fait. Mais peut-être que mes cousins, et d'ailleurs, j'ai pas suffisamment eu de discussion avec eux là-dessus, mais peut-être qu'eux, ils se font autrement le récit en fonction de ce qui les touche.
Et si la question, c'était est-ce que vous vous êtes intéressé à vos origines, etc., comment vous abordez le truc? Moi, j'ai vraiment 10 oncles et tantes, donc qui ont 20 ans d'écart entre le plus grand le plus vieux et la plus jeune. Donc c'est vrai qu'il y a 10 versions un peu différentes sur cette génération-là et donc des anecdotes assez différentes. Après, mon père, mon père m'a beaucoup parlé de son enfance, de ses origines. Il m'a mis des livres de sur l'Algérie pour savoir vraiment un peu pour que je vois un peu les paysages aussi de ce que c'était, les ambiances. Après, cette culture-là, j'ai envie de dire que j'y ai baigné depuis ma naissance, je sais pas, avec tous les récits, quoi, les fêtes, les fêtes religieuses, la nourriture, la langue, la musique. C'est un peu comme ça que je me suis créé cet imaginaire.
C'est clair aussi, que la nourriture, ça...
Beaucoup, ça... beaucoup avec le cinéma, beaucoup, la littérature. Franchement, c'est ça, je pense, qui crée les récits et qui nous... Enfin, c'est comme ça que je me suis intéressée à mes origines, ouais. Et aussi en allant sur les territoires. Je suis jamais allée en Algérie de ma vie. En revanche, j'ai été beaucoup en Lozère. et c'est vrai que c'est des endroits extrêmement reculés. Notamment, c'est un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Nogaret. C'est vraiment dans le fin fond de la Lozère. C'est à 700 mètres d'altitude. C'est un truc... c'est le 19e siècle, quoi.
Et pourquoi pas l'Algérie?
Pourquoi pas l'Algérie? J'ai un peu l'impression que les Juifs d'Algérie ne retournent pas en Algérie.
Ils n'ont pas le droit.
Si, t'as le droit, mais disons que déjà, c'est des milieux un peu hostiles pour les femmes, c'est vrai. Je me vois pas aller avec des copines en Algérie comme ça, sans guide masculin ou sans personne de ma famille homme. Mon père n'est jamais retourné en Algérie. En revanche, il a été énormément au Maroc, parce qu'en fait, la diaspora séfarade, elle part d'Espagne, elle descend au Maroc et ensuite elle arrive en Algérie. En tout cas, c'était la lignée de ma famille. Donc, il a été beaucoup au Maroc, mais peu en Algérie. J'ai l'impression que l'Algérie, c'est un peu un truc où les Juifs n'ont pas envie de retourner.
Ben, je crois même qu'il y a une histoire de Enrico Macias qui voulait y aller. Il voulait retourner chez lui parce que dans toutes ses chansons, il en parle quand même. Et on lui avait refusé le droit de revenir.
Sûrement à une époque, ouais, sûrement que c'était ça. À la fois, il y a eu aussi une guerre d'indépendance. Donc, c'est-à-dire que peut-être aussi qu'à ce moment-là, je pense entre les années donc 60 et 2000, les Algériens n'avaient pas forcément envie de revoir des Français sur leur territoire, ce qui peut être absolument compréhensible aussi. Donc voilà, ça, c'est comme ça.
Tu vois, toi, t'as un truc, je remarque, qui est de dire que ta famille est française. Tu dis toujours que tes parents sont pieds noirs, mais en fait, pour moi, quand tu parles à des Algériens, par exemple, je sais pas, des potes à nous qui sont Algériens, tu parles à leurs grands-parents, ils te disent « je suis pas pied noir, je suis Algérien ». C'est les colons français qui m'ont dit que j'étais pied noir.
Déjà, l'expression « pied noir », elle est chelou, non? Moi, je me suis toujours... En fait, la première fois que j'ai entendu cette expression, j'étais genre enfant et j'étais en mode « c'est-à-dire pied noir ». Et c'est au final des gens qui sont allés travailler en Algérie,
vivre à l'époque de la colonisation. Sauf que quand les Juifs, avec Crémieux, sont devenus français en Algérie, on les a appelés pieds noirs, vu qu'ils étaient français. Sauf que c'était une façon pour les colons, je pense, enfin moi, c'est ce que je me dis, de les marginaliser encore plus. Enfin, c'était pas une façon pour les colons de les marginaliser, ça les a marginalisés auprès des musulmans.
Ça, c'est sûr, on dit ça, mais on a du recul sur la situation. Ma grand-mère, Jeannette Layani, si tu veux, qui parlait vraiment genre très peu français, on lui avait dit qu'elle était pied noir, c'était comme ça, si tu veux, genre elle avait pas vraiment, elle avait pas intellectualisé le truc, elle était en mode pied noir, et je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être parce qu'on a le pied noir, j'en sais rien, tu sais, elle comprenait pas le truc, quoi. Donc c'est ce qui s'est dit dans la famille. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du recul et on intellectualise les termes, etc. On n'est pas pied noir en vérité, les Juifs d'Algérie ne sont pas pied noir, mais mes grands-parents disaient qu'ils l'étaient. Mais c'est vrai que Benjamin Stora m'a dit que les Juifs du Mzab étaient un peu les oubliés de la République française. Ils n'ont pas été naturalisés français. Ça, c'est une vraie problématique.
Du coup, vous, quand vous étiez petite, vous aviez conscience d'avoir des origines? C'était quelque chose dont vous parliez ou vous préfériez plutôt taire ça?
Alors moi, zéro conscience. Donc c'était pas à cœur de le taire ou de le dire. C'est juste j'étais pas gauche. Je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, je suis parisienne. Voilà. Je suis française. D'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy, il a dit une fois, et ça avait fait un bad buzz, c'est pas normal que les Français puissent pas dire mes ancêtres les Gaulois. J'avais pas trop compris, parce que moi, au final, l'assimilation, je m'étais dit, moi, mes ancêtres, ils sont Gaulois. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'avais 0 grands-parents sur 4 qui étaient nés en France. Et même ma mère n'est pas née en France. Ouais. Donc j'avais même pas trop compris le truc sur moi-même. Je l'ai vraiment compris en grandissant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense d'ailleurs que c'est commun à notre génération, j'ai envie d'avoir une parfaite maîtrise de mon identité plurielle. Et c'est pas ce que mes parents ont fait. Eux, au contraire, ils se sont assimilés, quitte à renier, voire un peu mettre des tabous sur des choses. Et moi, j'ai pas envie, il y a rien à assumer, en fait. J'ai juste une identité plurielle, c'est le cas de la plupart des Français. C'est trop bizarre ce mythe de, je sais pas, genre,
comme si ça,
genre c'est mieux d'être super français qu'un peu français, enfin je sais pas.
Ça pouvait remettre en question à quel point t'es française, quoi.
Ouais, et puis surtout pour moi, il y a des gens qui ont un passeport français, enfin il y a la question de la nationalité au sens juridique du terme. Et après, l'autre question, c'est vraiment un truc beaucoup plus personnel, des identités. Et moi, c'est sûr que mon identité, elle est plurielle comme tout le monde, en fait. Et du coup, j'ai pas envie d'être dans un truc un peu... vous savez, à un moment, on parlait beaucoup de ce truc... C'est pas forcément le cas dans ma famille, mais on parlait beaucoup de ce truc des Juifs honteux. C'est les gens qui se cachent, qui veulent pas trop assumer et tout, parce que, en fait, en France, on leur a dit... Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la grande différence avec la génération SOS Racisme, touche pas à mon pote et tout, et nous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions dans les luttes antiracistes et tout, auxquelles je prends pas part, mais c'est vrai que je les observe et que moi-même, j'ai du mal à me positionner là-dedans, Parce que, en fait, il y a quand même des gens qui disaient, bah, en fait, on va tous s'aimer, on va tous être égaux, mais personne n'assume qui il est. Moi, c'est un peu mon ressenti. Ouais, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Ben, moi, je vois totalement ce que tu veux dire. Personne n'assume qui il est, mais après, j'ai l'impression que ça a peut-être été plus facile pour ma famille d'assumer qui ils étaient parce que ils avaient cet héritage français et surtout cet héritage de rescapés de la Shoah, donc de, j'ai réussi à survivre, donc je suis là, c'est chez WAM. Tu vois, ouais. Je me suis toujours demandé, j'ai toujours demandé à ma grand-mère, mais comment tu fais pour ne pas haïr la France, sachant que la France t'a forcé à disparaître, t'as demandé de disparaître à un moment de ta vie. Enfin, mes quatre grands-parents hein, sont des rescapés de la Shoah et ont dû se cacher. Je me dis toujours, mais comment ils font pour ne pas être dans cette dichotomie? Et même mes parents aujourd'hui, comment ils font pour aimer la France et la soutenir? Ils m'ont dit, mais parce que c'est chez nous. Voilà, on a réussi à survivre, donc on y est. Voilà, c'est comme ça. Après. Quand j'étais petite, je me posais pas du tout la question de si j'étais, si j'appartenais à cette communauté française ou non, parce que j'étais française, y a pas de souci. En revanche, mes parents m'ont toujours, enfin surtout ma mère. Mon père, c'est vraiment, il est français, il se considère comme un vrai français. Ma mère aussi à fond, mais il y a quand même ce truc de, à tout moment, il faut partir. Et ça, c'est assez marrant.
Moi aussi.
Et même mon père, aujourd'hui, je vois qu'il n'a aucune notion de propriété. C'est-à-dire que pour lui, il ne voit pas l'intérêt d'acheter un appartement, de posséder, parce qu'à tout moment, ça n'a plus aucune valeur. À tout moment, il faut se barrer, parce que c'est vrai que pendant la Shoah, nos parents se sont fait voler, nos grands-parents, je veux dire, tu te fais voler tes propriétés. Il y a même un moment où mes grands-parents du côté de ma mère sont devenus allemands, parce que tu sais, ils habitaient en Alsace, on t'a carrément changé ta nationalité. Donc ils ont un peu cette notion de rien n'est définitif, il faut toujours partir. Et quand j'étais petite, il y avait ce truc, dès que je partais en vacances par exemple, ma grand-mère me disait, fais attention, tu peux ne pas revenir. Il y avait quand même un truc angoissant et je me disais, ok, je suis hyper française, mais quand je disais à ma mère, je veux vivre toute ma vie à Paris, elle me disait, tu m'inquiètes, va falloir partir en Israël à un moment.
Mais moi, je l'ai ce truc un peu, hein. Personnellement, j'ai ce truc un peu, mais je trouve que c'est un truc très, très juif, d'être totalement assimilé français, d'être propriétaire et tout ça, mais d'avoir quand même toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire, à tout moment, il se passe un truc et on est amené à partir, à fuir, à aller ailleurs. Moi, je le ressens vachement. Ouais. Bah. Mais pour juste revenir à la question d'avant, moi, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais plus jeune, j'habitais donc dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est vraiment un lieu où, de melting pot, hein, vraiment total. Et je me rappelle que quand on était au collège, entre jeunes, on se demandait... Donc, j'étais dans un collège en plus privé catholique, mais il y avait de tout vraiment dans ce collège. Et on se demandait toujours, et toi, t'es quoi? Mais c'était pas, t'es français, c'est quoi tes origines, t'es quoi? Ouais. Et en fait, il y avait un truc hyper de revendication de je suis algérien, marocain, sénégalais, voilà, je sais pas, il y avait genre... Et moi je disais algérienne, tu vois, algérienne. Et on se disait tout, enfin, personne ne se disait vraiment français. On se disait tous de notre orientalisme, tu vois. Mais on était assez fiers de ça. Et j'ai jamais eu de honte ou de quoi que ce soit. Moi, tous mes potes qui étaient musulmans, enfin, qui sont musulmans, qui étaient musulmans quand j'étais plus jeune, c'était, voilà... Bah moi, je suis libanais, marocain, tunisien. Et voilà, quoi, c'était ce truc un peu naturel.
Mais pour le coup, je pense... Donc nous, on est nés dans les années 90, en gros, 93, 94, machin. Et je pense qu'on est les derniers... Enfin, j'ai l'impression, malheureusement, que dans nos primaires, c'était encore hyper libre de pouvoir dire « Ouais, toi, t'es quoi ?» et tout, effectivement. Ouais. Voilà. Et que d'ailleurs, la religion n'avait aucun rapport avec ça. C'était genre, moi, il y avait plein de Portugais dans ma classe, bah, ils étaient tous Portugais. Après, est-ce qu'ils étaient cathos ou quoi? En fait, je l'ai jamais su. Ouais. On s'est jamais parlé de ça. Ils étaient certainement cathos, j'imagine, mais en fait, je sais même pas. Et pareil, enfin voilà. Et je pense que dans les années 2000, les sujets se sont tendus pour plein de raisons. Il y a eu l'intifada, enfin, bah, il y a eu plein de raisons. Et il y a eu aussi, enfin voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. D'avoir une origine et en fait on s'en fout quoi, ça change rien à qui t'es et voilà. Et il y a aussi quand même une montée du religieux dans toutes les religions, je pense, enfin pour ceux qui, après il y a des gens qui sont plutôt laïcs, je pense qu'ils rentrent pas là-dedans, mais tous ceux qui sont plus ou moins croyants et impliqués dans leur religion, bah il y a une montée du religieux qui fait que bah on est entre juifs, on est entre musulmans, on est entre cathos ou entre chrétiens. Et je pense qu'il n'y avait pas ça quand on était enfant. Et donc, nous, je pense qu'on est les derniers à s'être construits, je crois, hein, mais c'est une analyse personnelle,
ouais,
mais qu'on est un peu les derniers à s'être construits en chill, quoi.
Et qu'aujourd'hui, c'est quand même moins chill.
Mais est-ce que quand vous étiez jeune, vous revendiquiez, vous disiez que vous étiez juif? Parce que moi, je disais grave que j'étais juive. Et je trouvais que c'était même un peu la classe, tu vois. Genre, j'aimais bien le dire, quoi. Et il n'y avait pas de problème, vraiment.
Moi, je pense qu'on ne disait pas trop qu'on était juif. Parce qu'il y avait quand même ce truc de ne te la pète pas avec le fait que t'es juif parce que tu peux te faire tuer dans la rue. Mais quand j'étais au scout, j'ai découvert que j'étais ashkénaze. C'est plutôt ça. C'est que j'étais au scout juif et c'était genre, moi je suis séfarade, moi je suis ashkénaze. Et c'est là qu'on a commencé à parler de nos origines. J'avais genre 9 ans et tout le monde comparait ses origines. Ah, moi je suis tunisienne, ah, moi je suis polonaise, machin truc. Là, j'en ai pris conscience. Mais c'est vrai qu'en primaire, j'ai grandi vraiment dans le 8e. Donc, c'était multiculturel parce que quand même il y avait une pluralité des cultures, mais on n'en parlait pas, il y avait un peu une honte quand même dans le 8e. C'est genre t'es censé être un gros bourge, donc c'est tout ce qui te définit. Chut.
Ouais,
okay. Mais surtout moi j'ai grandi dans un milieu, enfin dans qui est le même que toi Flora par exemple, où c'était très rare d'être ashkénaze. C'est-à-dire que tu pouvais être flèche.
Bon, les ashkénazes se la pètent, on a compris.
Non.
C'est vraiment la base.
Non, mais c'est vrai que j'étais en mode, est-ce que je suis une juive valable, sachant que je suis une juive polonaise et qu'en France, c'est vrai que la majorité des juifs, ils sont maghrébins, on va dire.
Ah bah oui.
Et donc j'étais un peu.
Comme dirait Jamel Debbouze, il y a deux marques de juifs, les séfarades et les ashkénazes.
Voilà, et moi j'étais la marque ashkénaze et c'était un peu. Oulala, vous avez une histoire un peu rasera, un peu angoissante. Et il y en avait très peu, genre c'est très rare les ashkénazes.
Non, mais disons que les séfarades ont une sorte de respect aussi de souffrance, enfin de respect de la Shoah quand même par rapport aux ashkénazes, je trouve. Ils sont en mode OK, enfin on va prendre, enfin pas on va prendre soin de vous, mais genre les séfarades savent que les ashkénazes ont vraiment souffert pendant la Shoah, etc. Il y a un espèce de truc de respect éternel, je trouve. Quand même.
Ouais. Et il y a un peu un truc de beaucoup d'Ashkénazes sont partis aux États-Unis pour construire les États-Unis finalement à l'époque de Ellis Island, tout ça à la fin au tout début du 20e siècle et fin du 19e. Et il y en a finalement, on va dire proportionnellement, assez peu qui sont restés en Europe parce qu'ils sont tous fait zigouiller déjà. Et ceux qui restaient, bon bah courage. Et moi j'avais demandé à ma grand-mère, mais pourquoi vous avez bien vu que tout le monde était parti aux États-Unis, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ma grand-mère, elle m'a dit, mais de une, on n'avait pas de fric, et de deux, on ne pouvait jamais se douter qu'on allait se faire zigouiller comme ça et qu'on allait se faire bazarder.
À travers vos histoires, on entend résonner deux France. Une France qui accueille et une France qui chasse.
Il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que 100% des Juifs que je connais ont été quand même, à un moment, victimes d'antisémitisme.
Oui.
Il faut aussi le savoir. Et après, c'est peut-être un fardeau qui a toujours été, qui sera toujours... Et qu'au-delà de la Shoah, il y a évidemment les Ashkénazes et ceux qui ont vécu la Shoah, ils ont une histoire beaucoup plus...
Mais ne compare pas les...
Douloureuse. Non, mais voilà, c'est sûr que c'est extrêmement récent et extrêmement douloureux. Mais moi, globalement, mon grand-père maternel, il a fait l'arbre généalogique de notre famille depuis le 15e siècle. Et en fait, quand il m'a montré, j'ai réalisé que toutes les deux générations, ma famille a changé de pays.
Bien sûr.
Et donc, moi, je suis la deuxième génération, même la troisième génération en France. Vu que c'est mes grands-parents qui sont venus. Donc c'est vrai que ça interroge. Bah, vu que tout le monde est... En fait, depuis le 15e siècle, ma famille bouge.
Oui, genre peut-être donc, que toi, tes enfants...
Bah, qui va devoir bouger ouais, bah, peut-être c'est ça, moi, c'est ou ça. Peut-être c'est mes enfants, ou peut-être le monde change.
Bien sûr.
Mais il y a un moment où on sait qu'il va falloir bouger. Hein. C'est horrible. Mais...
Et surtout, il y a un côté... le judaïsme, aujourd'hui, c'est carrément une ethnie. En fait, on dit pas... Enfin, je me suis toujours sentie, moi, personnellement, habitant en France, étant française, comme dit ma mère, depuis la nuit des temps, on est français. Je me suis quand même toujours sentie un peu étrangère parce que j'étais juive, comme si c'était une nationalité d'être juif.
Parce que le juif, c'est l'autre. Et c'est toujours un peu ça la différence, c'est vrai. Mais je trouve quand même, alors évidemment que je te rejoins, Flora, quand tu dis que tous les juifs ont été victimes d'antisémitisme au moins une fois, oui. On s'est tous en fait pris un sale juif.
Ou un moment. T'as un gros nez,
un moment. Que ça, c'est sûr. Et, ou alors.
Toi, tu dois être riche de toute
façon. Non, ou alors des rencontres complètement dingues. Moi, je me rappelle, une fois de plus, j'étais en Lozère, hein, en vacances et tout. J'avais 14 piges et je me fais copine avec voilà, les gars qui habitent un peu à côté dans le camping et tout ça. Et bon, c'était les jeunes, quoi. Et on parle, on fait un feu de camp un soir et tout. Et on parle, et bon, c'est des jeunes qui viennent de la région, quoi, qui ont grandi dans les montagnes, les gars, voilà. Donc déjà, ils ont jamais vu un juif de leur vie. Je leur dis pas forcément que je suis fuge. Et il y en a un, et donc on parle on parle comme ça, et il y en a un qui dit, bon, bah, moi, ceux que je déteste le plus, c'est les juifs. Et ils commencent à nous mettre des vidéos d'Hitler, de musique qui commence à se taper des barres sur la Shoah, etc. Et c'est un peu la première fois que je me suis sentie vraiment, vraiment en insécurité. Si je me découvre et que je lui dis que je suis juive, il se passe quoi en fait à ce moment-là?
Ouais.
Il me jette dans le feu, enfin il se passe quoi en fait, tu vois?
Bah oui.
Donc, et ça.
Moi, des anecdotes comme ça, j'en ai des milliards parce qu'avec les scouts, bah, ouais. On allait tout le temps, tous les étés, dans des bleds paumés en France. On avait toqué à la porte d'une femme pour remplir nos gourdes, parce qu'on marche, on va dire, 15 km par jour dans la nature totale. Et on frappe à la porte d'une dame qui dit c'est qui? On dit c'est les scouts. Et elle dit comment ça? À quel scout? Et on dit les scouts israélites. Et elle répond y a personne.
Aïe.
Et pareil, on était dans un camping et avec les scouts toujours. Et donc on se fait des copains qui avaient la tente à côté de la nôtre et tout. Et c'est vraiment nos potes, genre limite ma chef d'équipe, elle allait en pécho hein, tu vois. Et ils nous disent et c'était en Alsace. Et ils nous disent attendez, il faut qu'on vous montre un truc trop stylé et tout. Et ils prennent des feuilles, et ils commencent à faire un dessin avec des feuilles sur une lampe de poche. Et c'est une croix gammée. Et là. Nous, on était genre une dizaine et on les regardait comme ça avec attention et on voit qu'ils commencent à faire une croix gammée et on se dit, aïe, on va dormir à côté d'eux.
Ouais.
Et genre, j'ai peur en fait.
Ah ouais,
et même là, plus récemment, l'année dernière, je suis dans un taxi pour aller chez ma grand-mère et il me dit, vous êtes juive? Alors que, enfin, on ne se parle pas. La première conversation, c'est vous êtes juive et je lui dis, bah, par réflexe, non. Parce que j'ai peur de
la suite. Ah oui, toujours dire jamais non. Quand on est seul dans un taxi.
Voilà. Donc par réflexe, je dis ah non, pas du tout. Parfois même, je m'invente vraiment des origines et je prends les origines d'une copine à moi qui est égyptienne. Je dis je suis égyptienne. Voilà. Donc je dis non et le mec il me dit ah bon bah c'est pas méchant, mais vous avez une tête de juive. Et donc je me dis ok, ben non pas du tout, je suis pas juive et tout. Et il me dit en plus je vous dépose dans un quartier hyper riche et c'est là que tous les juifs habitent parce qu'ils sont riches dans cette ville.
Ouais.
Et je me dis, mais aïe. Enfin, ça fait peur, quoi. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, donc je n'ai pas une tête de française. Je suis pas française. Je suis un peu étrangère dans ce pays. Alors que le chauffeur lui-même était sûrement aussi d'origine étrangère. Mais ça te ramène à un truc de, à tout moment, tu seras dans une différenciation, tu vas pouvoir te faire déraciner, va falloir partir.
Mais tu vois, moi, je trouve que ce qui se passe dans cette campagne, je change un peu le sujet, mais quand même, ce qui se passe dans cette campagne présidentielle, ça me glace le sang. Et ça me terrifie. Parce que on est en train de faire exactement pareil avec, je sais pas comment ils appellent ça, les musulmans, les arabes, je ne sais quoi, les immigrés, les migrants, enfin, encore que, en plus, tout ça est tellement divers, enfin, il y a tellement de choses là-dedans, mais il y a genre un sac qui est en train de se créer avec des gens en mode no, tu vois. Et on est en train de faire ça, et du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est, bah, en fait, on prend des gens, on sait pas qui c'est, on s'en fout, en fait, on s'en fout complètement. Par contre, on en fait un ennemi, tu vois. Et c'est vrai que toutes ces expériences d'antisémitisme qu'on a vécues, on s'est aussi rendu compte que quand on a fait des amitiés avec des gens antisémites, parce que ça nous est tous arrivé, et qu'au bout d'un moment, ils nous ont dit « Putain, mec, désolé, genre, je savais pas que les gens juifs étaient trop sympas, enfin, qu'en fait, il y a plein de... En fait, il y a le même pourcentage de gens partout, enfin, voilà. » Et bah là, le problème, c'est qu'on est en train de faire la même chose, et moi, ça me glace le sang, parce que peut-être je suis plus sensible, parce que j'ai pu le vivre aussi, de me dire que bah aujourd'hui, quand t'es musulman, d'origine arabe, je sais quoi, encore une fois, que t'appartiens à ce truc de l'autre, là, bah en fait, tu te fais quand même pointer du doigt tous les jours. Donc t'allumes ta télé, tu te fais pointer du doigt, y a des meetings politiques, tu te fais pointer du doigt, les gens qui vont avoir des meilleurs scores aux élections, enfin, j'espère pas, mais ça va être les gens qui ont le plus tapé sur toi, en fait. Et moi, je les connais, ces gens. Enfin, en fait, quand t'habites à Paris, t'as quand même eu une chance incroyable. Pour moi, c'est la plus grande des richesses du fait d'habiter en ville, et encore plus à Paris, qui est une ville très cosmopolite, c'est que t'as rencontré plein de gens. Moi, dans ma classe, c'était l'ONU, genre. Il y avait 1000 non, mais c'est vrai. Il y avait 1000 nationalités. C'est, déjà, dans les Arabes, il y a plein d'Arabes, tu sais. Enfin, il y a plein de possibles, tu vois. Mais il y a aussi, je sais pas, il y a aussi les gens d'origine portugaise, il y a aussi les gens d'origine, enfin, voilà, il y a plein de gens. Et cette chance-là, ça fait que tu les connais, les gens. Donc, tu sais qu'il y a des gens, des gentils, des méchants partout. Enfin, il y a le même pourcentage de gens, voilà.
Ouais, bon, mais ça.
Fréquentables et infréquentables. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, en fait, en tant que juif, d'ailleurs, Élise, c'est ce que tu dis souvent, c'est que, en tant que juif, on comprend mieux même toutes les problématiques mémorielles, toutes les problématiques d'être l'autre, tout le temps. Et donc, peut-être qu'on a une empathie, encore que ça dépend, parce qu'il y a quand même un candidat juif qui nous fait bien chier en ce moment, mais ça dépend lesquels, bien sûr. Mais...
Bah, je pense que, typiquement, à Éric Zemmour, il est d'origine algérienne, et les Algériens, ils ont eu ce truc de « il faut s'assimiler de façon extrême, on oublie qui on est, on a honte, de nos origines, mais parce que c'est aussi un truc. Bon, je suis pas du tout en train de chercher des excuses, attention.
Je sais pas si mais c'est la honte.
Bah, c'est un putain de complexe.
C'est la honte. Je crois juste que ce sont des gens qui sont nés aussi français. Et qui sont nés français. Enfin, lui, il est né français, mais ses parents sont nés français aussi. Donc, c'était une assimilation assez. Bon, hey, Crémieux, c'était un juif. Hein. C'était un juif, il était au gouvernement. Il a dit bon, voilà, bah, je suis un juif, les juifs vont être français à partir de maintenant. Donc, c'est des gens qui sont assimilés oui. Un peu. Assimilés. C'est un grand mot, assimilé, parce qu'assimilé, ça veut dire quoi, en fait? Parce que, mes grands-parents, bon.
C'est vrai,
je pense que si tu les croises dans la rue aujourd'hui, enfin, s'ils étaient encore vivants, tu te dirais pas, c'est les gens les plus assimilés du monde, tu vois.
Si tu veux, l'histoire de Crémieux, c'est un peu un mec qui était juif en France, qui voyait qu'en Algérie, les juifs, ça commençait à sentir le roussi pour eux, qui se faisait vraiment. Il y avait des pogroms, hein, à l'époque. Il faut pas du tout se dire que. Enfin. Évidemment, ils vivaient en paix avec les chrétiens et les musulmans, mais pas tant que ça, parce qu'ils payaient un impôt supplémentaire, parce qu'ils se faisaient vraiment vicos, parce que juifs. Donc il s'est dit, je le fais très grossièrement, mais il a un peu dit aux juifs, « Ok, je vais vous rendre français, mais vous fermez bien vos gueules et vous vous tenez à carreau. Parce que vous allez rentrer dans la team winner, qui est la team des Français. Donc, vous allez vraiment vous taire. » Et il y a un peu ce truc de, il faut se taire, et il faut rentrer dans les cases. Et je pense que tout le monde a eu un peu ce truc de que la France a imposé, mais je dirais pas que la France, c'est tous les pays qui ont colonisé, tous les pays qui ont eu ce truc de on va transformer un peuple en nous, mais là-bas.
Ouais.
Donc il fallait se taire et il fallait se transformer. Comme moi, ma famille, quand ils sont arrivés en France, du côté polonais, ils étaient en mode il faut qu'on rentre dans les cases parce qu'il faut pas qu'on se refasse tège, il faut qu'on se fasse oublier, il faut qu'on se fasse tout petit. Et.
Mais c'est marrant parce que ce truc de prénom, tu vois. Mes grands-parents, donc quand ils sont arrivés en France, ils ont appelé mon père Charles, etc., alors que tous les autres avaient des prénoms plus orientaux. Mais la deuxième génération, donc mes cousins, par contre, ont appelé leurs enfants par des prénoms ultra hébraïques, tu vois. Mm-hmm. Comme s'il y avait un espèce de retour. Tu vois, mes cousins, c'est vraiment Salomé, Yoni, enfin, c'est vraiment des prénoms ultra hébraïques, Abraham, et tout ça, tu vois.
Là. Oui. Nous, ils ont gardé, on a gardé des prénoms français, mais nos deuxièmes prénoms, il n'y a pas plus.
Non, mais ça, le deuxième prénom, c'est prénom hébraïque et c'est chaque individu juif qui a un prénom hébraïque. Mais là, ton premier prénom, c'est genre Ilan, Yoni, Avi, Rachel, Ruth. Tu vois,
ouais, délire.
Genre, c'est un truc de ouf, ce phénomène. Et c'est vrai que moi, ma mère, étant française, de famille vraiment chrétienne, mes grands-parents étaient ultra chrétiens, mes grands-parents maternels, bon, il était hors de question qu'on s'appelle par des prénoms hébraïques, tu vois. Et puis d'ailleurs, anecdote gaulerie, mon père donc a imposé le judaïsme dans ma famille sans que ma mère se convertisse au judaïsme, mais c'était quand même Shabbat tous les vendredis soirs, toutes les fêtes, bar mitzvah pour mon frère, etc. Et ma sœur aînée, en fait, on a découvert bien plus tard que ma grand-mère maternelle l'avait pris un dimanche et l'avait baptisée en scred, ok, genre sans le dire à mes parents, elle l'avait emmenée genre à l'église et elle l'avait fait baptiser, mais sans le dire, tu vois, comme ça. Et donc on l'a appris bien plus tard. Donc c'était ultra gaulerie.
Ta sœur, elle s'en souvient ou pas?
Non, elle s'en souvient pas, elle était bébé, si tu veux. Et quand mon père a appris ça, bon, il s'est tapé une énorme barre, il a dit, bon bah, ce n'est que du plus, de toute façon, c'est sympa, quoi. Mais voilà, mais je me rappelle que ma grand-mère maternelle, elle nous donnait un peu, quand on était chez elle, du porc en cachette et tout, en nous disant, si, mange cette viande, c'est très bon, mange ça. Tu vois, il y avait un espèce de truc de, vous êtes juif, mais nous, on n'est pas juifs. Donc, vous êtes les deux, en fait, tu vois.
Mmh. Oui. Ouais. Moi, mon père, il avait tellement eu cette honte d'être juif. Enfin, ça n'existait pas du tout, le judaïsme, dans sa vie. Parce qu'après la Shoah, mes grands-parents étaient en mode, c'est la honte, on oublie, bye-bye. Parce que être juif égale se faire tuer, ou se faire, en tout cas, traquer. Et donc, quand il a rencontré ma mère, le judaïsme n'existait pas du tout dans sa vie. Il pensait qu'à Shabbat, qui est juste une fête où tu fais un grand dîner et t'allumes pas l'électricité, en fait, très grossièrement, il pensait, lui, qu'il fallait jeûner. Enfin, il savait rien. Et c'est ma mère qui l'a reconnecté un peu à ses racines. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, chez les Ashkénazes, je trouve, en France, un tabou, un traumatisme, un truc. Même, tu vois, quand on a rencontré Ginette Kolinka, on a souvent rencontré même des rescapés de la Shoah, ils se sont soit convertis au christianisme après la Shoah parce qu'ils ont eu honte. Et se convertir au christianisme, c'était aussi une façon d'abandonner leurs origines, d'abandonner le shtetl, tu vois, la Pologne. Soit convertis, soit ils ont tout abandonné, quoi. Ils ont oublié. Et j'en vois plein, des copains à moi qui sont cathos aujourd'hui. Ouais. Mais ils se rappellent de ce grand-père ou de cet arrière-grand-père qui était juif. Mais c'était la honte, il fallait pas en parler.
Mais moi, je me demande ce que ça veut dire être un Français assimilé. Et je me demande dans quelle mesure on peut être assimilé sans renier ou avoir un peu honte ou ne pas en fait assumer totalement qui on est.
Oui, mais
et en fait je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire cohabiter des racines comme elles sont avec une vie quotidienne comme elle est en France et tout.
Bah nous et... on y arrive, on est toi t'es assimilée. Nous, on est assimilés. Et pourtant, on n'oublie pas qui on est à l'intérieur de nous.
De ouf, mais selon Éric Zemmour, on n'est pas assez assimilés parce que, je sais pas, faut qu'on monte patte blanche en appelant nos enfants avec des prénoms français et tout, tu sais. Enfin, genre.
Oui, mais on parle de, d'un mec.
On voit bien que c'est quand même un problème dans la société, cette question-là de l'assimilation. Ouais, non, mais alors on parle que ça ne l'est pas. Non, mais la plupart des Français.
C'est lui qui impose le sujet de l'assimilation dans le débat. Après, ça reste un mec extrême. Alors, certes, il cristallise.
Ouais, c'est un mec extrême à 15%.
Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, etc. Mais il fait partie quand même d'extrêmes. Et les extrêmes. Bon,
enfin, la droite, ils ont le même discours. Hein. Pécresse, elle a le même discours. Ceci, elle a le même discours.
Non, oui, mais tu vois, dans l'assimilation,
etc. Oui, mais le terme assimilation, là, il a été réemployé. Mais moi, je me rappelle très bien, quand j'étais petite, je faisais des cours de Talmud Torah. Donc, c'est comme du catéchisme, mais version juive. Et on avait appris au Talmud Torah ce que signifiait l'assimilation. Il nous disait, voilà, donc dans la communauté juive mondiale, tu as des juifs qui sont assimilés et des juifs qui ne sont pas assimilés. Et l'assimilation, pour nous, ça voulait juste dire que tu faisais passer le pays dans lequel tu vivais avant ta religion, sans pour autant la renier et l'abandonner. Mais ils nous encourageaient à l'assimilation. Moi, on m'a toujours poussée à l'assimilation. Mais... Et je me rappelle même d'un truc, c'est qu'au ZEI, donc au scout juif, on avait souvent ce débat. C'était un débat même qui était organisé par les animateurs, hein, qui était... Est-ce qu'on est d'abord juif et français ou français et juif? Donc, est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on est français? Et souvent, on avait 14 ans quand on faisait ces débats. Souvent, ce qui remontait, c'est que bah, on est français.
Oui, mais parce
on est français, mais on est juif. Et c'est indissociable, en fait. Mais... On est juif, mais le pays où on vit, c'est la France. Et donc, on va embrasser la culture française. On va être des Français. On va avoir des drapeaux français dans nos appartements. Mais on n'oublie pas que... On est juif et donc on va pratiquer la religion juive, on va se reconnaître en un juif, mais dans un pays qui est la France.
Oui, mais la particularité des juifs, parce que sûrement qu'il y a d'autres peuples qui ont cette particularité-là aussi, mais on connaît, nous, on est feuches, donc on connaît l'histoire des juifs, c'est que les juifs de tout temps ont été soumis à des lois de la part des états dans lesquels ils vivaient. Pour les forcer un peu à s'assimiler. Donc on a un peu cette culture. Napoléon, par exemple, c'est un mec qui a vraiment... agit pour que la population juive de France, hein, de son empire, soit assimilée. Il les a forcés, il a créé un consistoire, il a créé vraiment une synergie entre des chefs politiques juifs et les chefs politiques de l'État français. Donc il y avait vraiment une connexion, un lien, une communication entre les deux. Et donc c'était des lois. C'est en mode, vous n'aurez pas le droit de posséder la terre pour telle et telle raison, mais c'était vraiment dans le but de les assimiler, de les soumettre aussi, mais de les assimiler. Or, il y a plein d'autres ethnies, religions, peuples, etc., qui ne sont pas soumis à ce genre de loi. Donc, culturellement, ouais, je veux dire. Donc, c'est...
Bah oui, quand on voit qu'il y a encore des familles qui pratiquent l'excision en France, on dit qu'il y a environ 10 000 filles ou femmes excisées par an en France, chez nous. Bah, ça me choque. Et effectivement, si l'assimilation, elle pouvait avoir lieu sur ce genre de pratiques culturelles absolument criminelles, alors oui, c'est intéressant. Après, effectivement, est-ce que l'assimilation, elle est liée à la religion, elle est liée à la culture, elle est liée à l'origine? Bah, en fait, tout ça est pas clair. Et surtout, c'est très divers. Il n'y a pas de réponse, en fait.
Bah, ouais.
Ce serait trop facile. Et moi, je trouve que c'est quand même ça l'enjeu, là.
Mais regarde, toi, t'es assimilée. Pour moi, t'es une juive assimilée. Mais... tu as complètement gardé, conservé ta culture. C'est-à-dire que tes parents, ils ont quand même ce truc oriental, que vous vous sentez chez vous quand vous allez au Maroc. Enfin, il y a un truc...
Non, mais pas, je suis pas marocaine.
Je sais, mais quand vous allez dans un pays arabe... un pays arabe, vous vous sentez chez vous.
Non, mais moi, c'est sûr que, globalement, quand il y a du soleil et la Méditerranée, je suis à la maison.
Mais non, mais surtout qu'en mode... Tous les juifs se sentent chez eux au Maroc, même si t'as aucun lien avec le Maroc.
Mais de ouf.
Mais parce qu'il y a une tradition
c'est trop,
des rois qui ont toujours protégé leurs juifs.
Mais en fait, moi, c'est sûr que les cultures occidentales, méditerranéennes... pas occidentales, pardon, orientales. Moi, c'est sûr que les cultures méditerranéennes, elles me touchent dans mon cœur. Tu vois, je suis hyper sensible à cet art-là. C'est vrai que quand je suis dans le bassin méditerranéen, je suis en mode waouh, c'est je sens que je suis bien ici,
grave,
quoi. C'est chez moi. Mais après, même Paris, c'est chez moi aussi, en fait. Et je suis trop bien à Paris. Enfin, c'est ma ville. Je suis née ici. Voilà, j'habite ici et tout. Et c'est vrai que ça fait chier de pas pouvoir te dire que On peut aimer les deux, on peut assumer les deux sans que ça crée un choc au milieu, quoi.
Ouais, mais tu vois, regarde-moi, par exemple, je ne suis jamais allée en Pologne et je pense... Je vais y aller là parce qu'avec Julien, on a décidé d'aller à Auschwitz faire une journée pour voir les camps. Mais quand j'ai proposé à ma mère de venir ou à mon père, ils m'ont dit « Hors de question, jamais je n'irai dans ce pays. » On a un truc de limite, c'est interdit. C'est interdit d'y aller parce que le traumatisme a été tel que je ne me sentirai jamais chez moi dans ces pays. Et d'ailleurs, je n'y suis jamais allée dans les pays de l'Est parce qu'il y a une angoisse. Et même, je vais te dire, on est allé en Grèce. Je me rappelle un été on est allé à Rhodes et à Rhodes tu vois t'apprenais qu'en 45 ils déportaient encore des juifs alors qu'on était en pleine libération et donc il y a ce truc de souffrance qui est tellement intense qu'on ne veut plus jamais y retourner et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cet amour de la France de genre bon ici
c'est votre terre d'asile
voilà c'est la terre d'accueil c'est l'endroit où on a arrêté de nous tuer puis il y avait quand même une petite zone libre où même s'ils étaient cachés enfin moi j'ai quand même des documents où je vois c'est une lettre du proviseur de l'école de ma grande tante où ils lui ont dit désolé vous êtes virés on n'accepte pas de juifs et c'était à Nice.
Ouais, mais ça, c'est le cas de beaucoup de réfugiés quel que soit le pays d'origine mais moi je remarque souvent que dans ma génération dans notre génération, c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui sont réfugiés. Donc, eux, ils ont genre stoppé cette culture-là et cet héritage-là. Mais les générations d'en dessous, elles ont souvent envie de retourner découvrir ce pays, d'aller voir cette culture.
Chez moi, ça bloque encore.
Il y a quand même une sacrée rasra, excusez-moi. Alors, les villes sont sublimes. Vienne, ouais. Prague,
Berlin. C'est sûr que la Tunisie, c'est plus frais que la Pologne.
Mais putain, moi, j'étais à Berlin, les gars. Alors,
Berlin, c'est une angoisse.
Complètement d'origine séfarade de par mon père. Mais quand j'étais à Berlin, je me sentais pas... Enfin, bien sûr, en sécurité, ouais. Évidemment. Mais j'étais dans un décor de ghetto. Ouais, enfin, je me disais, je sais pas, il y a des ondes de Shoah qui restent... Et je me sentais pas super à l'aise.
Et ben pareil, je suis allée à Budapest il y a pas longtemps et je n'ai pas pu rester plus de 24 heures. Je me sentais trop mal.
Franchement, ouais.
Parce que peu importe le coin de rue où tu marches, il y a une plaque mémorielle de ici, 24 000 juifs ont été tués. Ici, le grand rabbin machin truc a été égorgé. Ici, c'est trop pesant. Et par contre, j'ai un truc assez étrange qui est mon rapport à Israël. Parce que depuis que je suis petite, et même, mais c'est pareil pour mes ancêtres, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle me raconte, à une époque où Israël n'existait même pas, que quand ils faisaient les fêtes juives, ce que tu lis quand tu fais Pessah, c'est l'an prochain à Jérusalem. Et donc j'ai ce rapport de « je dois retourner sur ma terre, qui est Israël », alors que personne de ma famille, enfin, si, il y a 2000 ans, ma famille, elle vient de là. Je suis une famille Lévi, c'est les 12 tribus d'Abraham. Ça vient de le terreau fertile, c'est Israël, si tu veux.
Et les Lévi, c'est un sacré blason.
Voilà, c'est une famille
des familles sacrées dans le judaïsme.
Voilà. Mais j'ai ce rapport à Israël de c'est de là que je viens. Alors que, enfin, c'est un truc que j'ai en moi, mais depuis que je suis enfant. Alors que quand t'es enfant, t'as même pas le temps d'intellectualiser ce truc.
Ouais.
Mais quand j'étais enfant, je me disais, c'est Israël, c'est mon deuxième
foyer.
Alors que je n'y suis pas. Je me considère française, j'aime la France, il n'y a pas de souci. Mais j'ai ce truc de me dire, si un jour on doit partir, ce sera en Israël. Et tous les soirs, quand je prie, il y a le mot Israël, il y a ce truc de... Enfin, tous les soirs, quand je prie, attention, je ne suis pas du tout pratiquante.
Mais
depuis que je suis petite, dès que j'ai un rapport à la religion, même à Shabbat, il y a le mot Israël, il y a ce truc de c'est de là qu'on vient. Et on s'est fait... Parce qu'en fait, le peuple juif, on va dire que c'est le premier peuple autochtone de l'histoire. Parce qu'ils venaient de ce territoire ils se sont exilés.
T'as raison, mais ça, c'est un... comment dire? De dire que c'est le premier peuple, c'est un truc très juif de se dire... c'est un des premiers peuples, effectivement, autochtones. Ouais.
Dans notre histoire, on va dire qu'on est autochtone, en tout cas... Voilà, on n'est pas le premier peuple autochtone, je pense. Parce qu'évidemment,
c'est très juste de dire qu'on est les premiers à faire un truc.
On est les seuls. Où il n'y a que nous.
Voilà, genre.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, tout ce qu'on lit quand on lit la Torah, et je pense même un chrétien quand il a lu l'Ancien Testament, ou un musulman quand il lit l'Ancien Testament, il le voit, ce n'est que des histoires d'exil.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que l'exil, ça fait partie de notre éducation depuis qu'on est bébé. Même si moi, ma mère aime dire qu'on est français depuis la nuit des temps, quand on lit des textes juifs, c'est-à-dire à toutes les fêtes juives, quand tu lis la traduction, c'est « on s'est fait dégommer la gueule, donc on a dû partir et on s'est retrouvés là ». Comme tu dis, Flora, que toutes les deux générations, il y a un départ. Et ben ça, c'est depuis la nuit des temps.
moi, je trouve ça très intéressant d'amener cette conversation sur, en effet, le rapport à Israël, parce que c'est vrai que...
Flora, vraiment, c'est un prix du recul.
Flora est partie. non, mais c'est vrai que il faudrait en parler, je trouve, dans le débat public, du rapport qu'ont les Juifs à Israël, mais pas à Israël en tant qu'État, là, en 2021, avec...
Pas politiquement.
Pas politiquement, pas au niveau du gouvernement israélien, des chefs de gouvernement, etc., plus d'un point de vue un peu philosophique de ce que représente une terre juive, d'accord ? Et je trouve ça très intéressant d'aborder le sujet, merci Élise. c'est vrai que la question se pose, et il faudrait, voilà, un peu... eh bien, en parler dans le débat public, que les gens qui ne connaissent pas Israël, qui connaissent très peu de Juifs, etc., comprennent, ou en tout cas, si ça les intéresse, comprennent le lien. Qu'est-ce que c'est qu'Israël pour nous ? Nous, on est la première génération, on est dans les années 90, enfin, on va dire la deuxième génération, à exister en contemporain d'Israël, en tant que Juif. Et ça, ça change tout, je pense, en tant que Juif.
On se sent plus en sécurité, tu veux dire ?
Tous ceux qui sont nés avant 58, donc qui ont vécu leur vie
48.
Sans... 48, pardon. Ouais, 58, pardon. Je confonds avec les dates de l'Algérie. Tous ceux qui sont nés avant 48, eh bien, vivaient leur vie dans un monde où il n'y avait pas d'État juif.
Ils vivaient déracinés.
Voilà, vrai. Donc une vie où, effectivement, il n'y a pas, en fait, de porte de sortie s'il arrive quelque chose de grave. Or, nous, ça se trouve, on n'ira jamais vivre en Israël de notre vie, voilà. Mais c'est toujours une espèce de porte de sortie, de vie en plus dans Mario Kart, de se dire... Ok, s'il y a le moindre problème, je pourrais aller là-bas et j'y aurais ma place et ma nationalité.
Bah c'est ça, et je vais te dire, même mon père, qui donc n'avait aucun lien avec le judaïsme quand il a grandi, il savait juste que oui, il était juif, mais vraiment, il n'y avait rien de juif dans sa vie, ok ? Il a eu ce truc quand il était jeune, il avait la vingtaine, d'aller en Israël, dans un kibbutz, être réserviste même. Il s'est dit, il faut que j'y aille parce que je ne peux pas l'expliquer. Il m'avait dit ça, il m'a dit je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais besoin d'y aller et j'avais besoin de retourner sur ce truc où je pouvais même pas dire que j'y retournais parce que j'y étais jamais allée et ma famille n'y était jamais allée, mais moi j'avais ce besoin d'y aller pour comprendre, outre la religion, d'où je venais.
Mais de toute façon, les Ashkénazes ont un rapport hyper intense avec Israël, puisque c'est en majorité des Ashkénazes qui ont fondé, créé Israël, qui ont construit ce pays, c'est vraiment les pionniers, hein, Ben Gurion, tu vois, un Moshe Dayan, etc. Mais c'est vrai qu'on a tous ce truc, enfin, en tout cas, moi, je sais pas, Flora, peut-être que... Flora est partie. Flora, peut-être que, je sais pas si tu l'as ou quoi que ce soit, mais quand on arrive, quand on atterrit à Tel Aviv, il y a un espèce de truc d'appel de la terre qui est très spécial, qui est un peu incompréhensible et indéfinissable de... Il y a un truc de... On est chez nous, enfin... On est chez nous en France, évidemment, bien sûr, dans un premier temps, mais on arrive en Israël et il y a des ondes qui nous appellent. Moi, ça me le fait, en tout cas. Et c'est très spécial, alors que, enfin, vraiment, mon père vient d'Algérie, entre guillemets, et ma mère de France. Donc, aucun rapport avec ce croissant fertile, cette zone, quoi.
Mais parce que depuis, en tout cas, moi, depuis que l'histoire de ma famille est connue, c'est-à-dire que depuis qu'on a des souvenirs, c'est comme ça, c'est que tous les vendredis soirs, toutes les Pâques, tous les Pessahs, tu dis l'an prochain à Jérusalem, tu parles d'Israël, tu parles de Jérusalem. Et même chez moi, on a, vous savez, à l'époque d'Isabelle la catholique, elle avait en Espagne interdit donc le judaïsme. Les juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la religion juive, à tel point qu'ils faisaient, donc ils venaient, ils se faisaient vraiment contrôler hein, par les soldats, la milice d'Isabelle la catholique. Et donc ils avaient créé des œuvres d'art, des dessins. Et en fait, au lieu d'avoir des coups de crayon, c'était des écritures, c'était des prières qui formaient un dessin. Et j'en avais un chez moi, ma mère, elle aime bien les œuvres d'art, donc on en avait un chez moi. C'est un dessin d'un homme, mais l'homme est dessiné en prière en hébreu. Okay, ouais. Il est dessiné en lettres hébreu. Et donc j'expliquais à ma mère, raconte, c'est quoi ? Elle me disait, ben, elle m'a expliqué l'histoire, voilà, qu'il n'avait pas le droit de prier, donc il faisait des dessins où il priait dessus, machin truc. Et même sur ce dessin-là, qui date d'Isabelle la catholique, il a écrit le mot Israël, il a écrit où c'est... Donc il y a ce truc qui a envie de nous ramener là-bas. Alors, après, politiquement, par exemple, toi, Flora, je pense aussi, tu as un rapport assez particulier, mais qui est lié à la politique. Et nous aussi, on a ce rapport lié à la politique, qu'on n'est pas forcément en accord avec ce qui se passe politiquement. Mais je pense qu'en termes de racines, en tout cas, la base de juste aller en Israël, peu importe... qui est sur ce territoire, il y a une appartenance.
De toute façon, quand est-ce qu'on va comprendre qu'il y a le même pourcentage de connards dans toutes les sociétés, genre? C'est quand même un truc de ouf. Peu importe l'ethnie, l'origine, la religion, il y a le même pourcentage de connards, de racistes, de gens bien, de gens pas bien. C'est toujours pareil. Et c'est ça le qu'on veut pas comprendre, alors que ça me paraît simple comme bonjour.
Je suis complètement...
Et autre chose, j'allais dire, spontanément, moi, j'ai un rapport à Israël qui est assez complexe. Et en fait, non, je vais vous dire un truc, j'ai un rapport à Israël qui est assez simple. Je pense que le rapport de la terre entière à Israël est trop complexe. Et donc, moi, je refuse de m'exprimer sur ce sujet parce que je pense que l'illisibilité est supérieure à tout ce qu'on pourra en dire et que malheureusement, c'est un débat qui est verrouillé par plein de choses horribles des deux côtés. Et donc, si moi, aujourd'hui, je me reconnais dans la politique d'Israël, absolument pas. Par contre, quand il y a des escalades de violence, il y en a eu récemment, j'ai passé le week-end à pleurer, j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça m'a trop saoulée. Évidemment, j'ai pas pris position parce que en 140 caractères sur un tweet, on peut pas expliquer ce conflit qui est très complexe. Et par contre, moi, je souffre. Avant de se dire qui a raison, qui a tort, et quoi, et comment, etc. On peut pas dire qu'il y a pas de l'antisémitisme dans cette histoire à tous les étages. Voilà. Et donc, évidemment, c'est aussi un espace géographique qui concentre toute l'histoire du XXe siècle et même avant, toutes les questions religieuses et toutes les questions d'indépendance des peuples, de droit à l'autodétermination, etc.
C'est ça.
Donc, en fait, avant de se demander juste qu'est-ce qu'on en pense, il faut observer le niveau de complexité. Et je pense qu'il nous faudrait déjà nos vies humaines à nous pour observer le niveau de complexité.
Non, mais ouais, ça, je trouve que t'as complètement raison. Et même nous, ça nous met... C'est douloureux d'être juif. Et d'avoir cette histoire de conflit israélo-palestinien au-dessus de la tête, parce que déjà, on l'a pas demandé.
Et par ailleurs, les juifs, ce qu'on appelle les juifs de la diaspora, donc c'est tous les juifs qui ne vivent pas en Israël, on est vraiment des doubles victimes. Parce que non seulement c'est un territoire qui est quand même en guerre depuis sa création, donc ce serait cool qu'il y ait la paix. Et deuxièmement, nous, on est français. Enfin, moi, j'ai pas de passeport israélien, j'ai rien demandé. Enfin, j'ai rien demandé, en fait. Donc, le problème, c'est qu'il y a des décisions politiques qui impacte globalement la diaspora juive, et d'ailleurs pas que, hein, ça va au-delà de ça. Et donc, en fait, c'est un moment où... j'en reviens, désolée, à la complexité de ce problème. Et en fait, je vous dis, hein, il faudrait des années d'études pour comprendre, déjà, avant de se positionner.
Oui, mais tu vois, j'ai quand même ce sentiment, et c'est marrant, de... Tu parles d'exil, je ne me sens pas exilée de Pologne, je me sens exilée d'Israël. C'est quand même marrant.
Bah non, parce que...
C'est bizarre à expliquer, même moi, j'arrive pas à me l'expliquer,
L'exil, elle date de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, en réalité.
Alors, c'est masculin ou féminin, exil, comme...
Un exil.
Je dirais que c'est...
Eh bah, écoutez, moi, je suis... je suis pas du genre, donc je yelle les mots, en fait.
Je yelle. Non, okay, mais j'ai ce truc que je peux pas expliquer, alors que...
Oui, mais parce que tu te dis que... ton aïeul d'il y a 5000 ans vivait en Israël et était gardien du temple de Jérusalem et était un Lévi avec son écusson, tu vois, donc l'exil
a... Je vais te dire, je remarque même ça, j'ai l'impression que c'est carrément une pathologie, parce que quand je parle à des gens qui sont pas du tout juifs aujourd'hui, mais qui ont un ancêtre juif, ils ont un rapport à Israël qui est extrêmement particulier, d'amour ou de haine, mais en tout cas comme un parent. Israël, c'est comme un parent qu'ils aiment ou qu'ils détestent, alors que souvent ils ne sont plus juifs depuis deux générations.
Oui, mais ça...
Mais tu vois, moi, j'ai des cousins qui sont pas juifs parce que leurs parents, leurs pères se sont mariés avec des femmes non juives et qui se sont mariés à l'église. Mais ils ont un rapport à Israël qui est tellement présent dans leur vie. Enfin, Israël est tout le temps là. Et ils savent pas pourquoi. Ils se l'expliquent pas, mais ils se sont achetés une maison en Israël. Ils ont eu envie, même après s'être mariés à l'église, de se marier en Israël. Non, même pas religieusement. Il y a un truc inexplicable.
Mais c'est un truc de... Déjà, en fait, être juif, pour moi, hein, si j'ai une définition, si je devais donner une définition personnelle de qu'est-ce qu'être juif, être juif, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'être juif. C'est ça, être juif. C'est, OK, il y a l'aspect religieux, tu viens de la religion du livre, du premier livre, OK.
Flora était vraiment en mode, est-ce qu'on peut éviter
le sujet du judaïsme. C'est hyper intéressant, je trouve. Et c'est une conversation entre trois personnes qui ont une relation différente à leur judaïsme, à Israël, à la France, etc. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'être juif ? On se pose tous la question en tant que juif de qu'est-ce qu'être juif. Et c'est vrai que tu peux, en fait, être juif sans croire en Dieu.
C'est ça le truc, c'est que t'appartiens à un peuple quand t'es juif. On dit souvent qu'on est juif et ça se transmet par le sang. Mais tu peux être... En fait, il n'y a pas de juif athée réellement. Il y a des juifs athées, mais ils se diront toujours juifs parce qu'ils ont un aïeul juif. Donc on fait partie d'un espèce de peuple itinérant depuis 5700 ans.
Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que Flora, désolée, mais je vois que Flora, elle a cette espèce de syndrome de l'imposteur de son judaïsme. Enfin, je dirais pas syndrome de l'imposteur, mais tu c'est n'as marrant. Jamais... Tu n'as jamais... Non, mais c'est pas du tout une critique. Justement, c'est hyper intéressant, c'est que t'as cette espèce de truc de j'ai pas du tout envie que les gens sachent que je suis juive, j'ai pas du tout envie d'en parler sur les réseaux sociaux, j'ai jamais envie de le revendiquer. Mais qui, c'est intéressant en soi, cette honte qu'on a d'être juif.
Non mais moi j'ai aucune honte.
Non mais moi j'en ai honte parfois. Quand je suis dans un Uber et qu'on me demande si je suis juive,
ah bah non, mais
quand je suis sur les champs...
C'est pas avoir honte, c'est être en danger. Parce que moi j'ai eu une agression antisémite dans un Uber il y a quelques années et j'étais vraiment en danger. Et donc, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Tu peux pas être juif tout le temps et en toutes circonstances, parce que parfois, c'est dangereux.
Bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. Notamment quand il y a des conflits au Moyen-Orient. Et c'est en ça que les juifs de la diaspora sont des victimes. C'est que c'est des moments où on est en danger dans la rue. Voilà. Moi, quand je vois dans la rue, je croise parfois des jeunes petits garçons avec des kippas. C'est le truc
aussi,
qu'on se met sur la tête quand on est juif pratiquant. J'ai envie de leur dire, mais mon enfant, enlève ça, tu te mets en danger. Tu cours un danger. J'ai pas envie. Enfin, c'est juste un être humain.
Oui, on nous a appris à cacher nos colliers, nos magaines David, nos étoiles de David.
Mais pas du tout. Après, personnellement, est-ce que j'ai envie de revendiquer mon judaïsme? Il se trouve que je suis absolument pas croyante et que c'est pas un truc qui m'intéresse tellement.
Mais donc, moi non.
Comme si tu me dis, genre, est-ce que t'as besoin de dire que dans ton identité, je sais pas, tu mesures 1m64. Bon, c'est faux, je mesure 1m62. Mais est-ce que t'as besoin de dire ça? Bah non, enfin, je sais pas, on s'en fout, tu vois.
Mais attends,
après, si tu me demandes, je te réponds. Mais genre, c'est juste un constitutif.
Vous ne croyez pas en Dieu?
Moi non plus, je crois pas en Dieu.
Toutes les deux. Mais parce que c'est vrai qu'au 21e siècle, en tout cas, avec nos vies, etc. Bon, c'est assez. Enfin, pour ma part, c'est difficilement. C'est difficile de croire en Dieu, quoi, de se dire, il y a un Dieu, bon, c'est quoi et tout. Mais quand on vous demande, est-ce que vous êtes juive? La réponse est.
Parce qu'objectivement, c'est oui, tu vois.
Mais parce que vous appartenez à un peuple. Je dis vous, je suis dans le vous. Tu vois. Et c'est vrai que vous avez vos deux parents qui sont juifs. Donc, vos mères sont juives. Et dans la religion juive, c'est la mère qui... Enfin, vous trois, pardon, excuse-moi, Laurie, mais tu es un peu omnisciente dans cette émission. Eh bien, vous avez donc vos... Vous avez vos mères qui vous ont transmis cette religion. Moi, ma mère... Elle ne m'a pas transmis la religion juive puisqu'elle ne l'est pas et qu'elle n'a pas voulu se convertir et que d'ailleurs c'est très bien comme ça. Donc c'est vrai que j'ai un espèce de recul par rapport à mon judaïsme aussi et que je le revendique même un peu plus que certaines personnes qui effectivement ont leur mère juive. Je me sens beaucoup plus à l'aise de dire que je suis juive, je me sens beaucoup plus en sécurité peut-être parce que j'ai cette espèce de porte de sortie aussi, tu vois. Voilà, il y a un rapport...
Oui, en fait, on a en fait l'identité. Ce que la France essaye un peu... Enfin, je pense à certains moments de l'histoire, ce que la France a voulu nous faire oublier, c'est nos identités. OK ? Et je pense surtout aux communautés arabes en France. On leur a dit un peu, vous êtes censés oublier qui vous êtes. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus important que l'identité, de savoir d'où tu viens, de savoir qui tu es. Et c'est ça qui nous bazarde, en vrai. C'est l'identité, c'est ce truc de tu dois cacher qui tu es, tu dois pas forcément le dire.
Ouais, mais après, tu vois, c'est aussi une partie de ton bagage. Parce que moi, si je suis d'origine méditerranéenne et que j'ai des histoires d'exil, d'immigration en France et j'en suis super fière, franchement, j'ai aussi des valeurs féministes et j'en suis, par exemple, je sais pas, c'est juste l'exemple qui m'est venu, et c'est autant un constituant de mon identité. Et donc, en fait, ce que je suis moi, c'est tout un tas de choses, comme chaque personne est tout un tas de choses. Et donc oui, les racines, c'est vrai que c'est le point de départ et qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Petit proverbe random. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que chaque personne peut être d'origine maghrébine et passionnée d'art. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, chacun a ses trucs, tu vois. Et voilà.
Mais donc c'est intéressant donc, de voir qu'en effet... En effet, les générations d'avant ont eu à cœur de conquérir leur nationalité française et de s'assimiler, etc. Et tandis que nous...
Attends, toutes les deux, vous faites des recherches Google.
Ouais, je suis en mode omniscient qui sait tout. Hein, qui sait tout. Donc oui, c'est un peu ça.
Ah, bravo.
Voilà.
Donc, vas-y, continue, Laurie.
Tandis que nous, On a à cœur de conquérir nos origines, donc de faire le
chemin inverse.
Le chemin inverse.
Mm-hmm. Ben, parce que c'est une quête mémorielle.
Mais c'est surtout que c'est aussi comme ça que, comme tu dis, on peut savoir qui on est. Faut savoir d'où tu viens.
Et c'est pour ça que je me suis retrouvée souvent, t'as raison totalement, parce que je me suis retrouvée souvent dans des débats, notamment avec des musulmans, sur, bon, déjà, qui a été victime le plus de racisme, machin truc. Et je me suis dit, mais on ne communique pas du tout entre juifs et musulmans sur comment déjà faire son devoir de mémoire et comment se réapproprier ses identités. OK ? Parce que c'est vrai que nous, en tant que juifs, on a grandi dans une France où on a eu des outils de mémoire.
Ouais.
C'est-à-dire que moi-même, ma mère, quand elle a grandi, elle a eu accès à des livres, à des films. On s'est vraiment battu pour que la mémoire subsiste. Dans beaucoup de villes, il y a des mémorials de la Shoah, d'Europe, hein, je veux dire des villes d'Europe. Ce qu'aujourd'hui, les musulmans n'ont pas vraiment. Mm. Mais après, parce que l'histoire aussi est plus récente de l'immigration musulmane. Mais je pense qu'il faut vraiment que chacun puisse se réapproprier son identité tout en étant français. Et nous, on a cette possibilité-là parce qu'on habite à Paris, on est juif, mais on est français avant tout. Mais on a un mémorial de la Shoah. Donc on peut et on a un musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Et on a un consistoire.
On a un consistoire.
Un lien étroit entre la République, je dirais, et une instance politique. Mmh. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consistoire musulman. Il n'y a pas de consistoire de l'islam en France. Et d'ailleurs, ce serait super d'en faire un pour avoir des chefs, des représentants.
Mais surtout, toute mon enfance, mais vraiment presque un dimanche sur deux, même quand j'allais au scout, donc il y a un mouvement de jeunesse, j'ai eu des outils pédagogiques sur mon judaïsme. Comment en parler, comment le transmettre, ce que mes ancêtres ont vécu. Je pense que c'est très important que chaque communauté en France ait accès à ça, que tu sois asiatique, que tu sois, je sais pas,
que tu viennes d'Amérique. Parce qu'il y a certains, je crois, enfin autour de moi en tout cas, parmi mes amis, il y a certains musulmans qui souffrent de la prétendue politisation de l'islam, et est-ce qu'il faut politiser l'islam, etc. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je suis juive, et alors le consistoire, vraiment, il me représente pas du tout.
Mais moi non plus.
Je suis en mode, waouh, ils sont conservateurs, ces gens, ils sont homophobes, ils sont sexistes, ils me saoulent.
Bien sûr.
Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Donc, moi, je me reconnais pas là-dedans. Par contre, mon rapport à la foi, il est individuel, il est personnel, il est presque confidentiel, parce que ça me regarde et que j'en fais ce que je veux. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, il y a beaucoup de musulmans qui ont un rapport à la foi qui est comme ça, qui est très personnel, qui est très confidentiel. Est-ce que j'ai envie d'aller à la mosquée, comment j'ai envie de vivre ma foi? Ça, c'est une question que chaque personne peut se poser en fonction de sa religion et de ce qu'il a envie d'en faire. Mmh. Et après, il y a un autre sujet, c'est les règles d'organisation de la communauté.
Oui, c'est
et
ça.
En fait, en France, la loi de 1905, donc qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui à l'époque avait une raison très politique, et en fait, il faut pas l'oublier, le christianisme était extrêmement politique dans notre pays. C'était le christianisme qui régissait la société, qui avait le pouvoir, le gouverneur, exactement, qui avait le pouvoir de gouverner.
Bah, le représentant de Dieu sur Terre était donc évidemment le roi de France. Enfin, c'était vraiment une personne. Donc,
oui, et par ailleurs, tout ce qui était l'école, l'éducation, le mariage, en fait, ça régulait la vie. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, on s'est émancipé, enfin, depuis 1905, donc depuis un peu plus d'un siècle, on s'est émancipé de ça. Mais en fait, on voit bien que dans le religieux, il y a aussi du civil, il y a aussi du social, et il y a aussi du culturel. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, la Torah ou la Bible, en fait, avant tout, c'est un code civil. C'est en fait juste, à l'époque, on savait pas faire des tribunaux comme on sait les faire aujourd'hui.
Alors, plus la Torah que la Bible.
Ouais, clairement.
La Torah, c'est, enfin, le premier testament qui fait partie de la Bible, hein. Qui fait partie de la Bible. C'est là où il y a les lois.
On a changé ton société. Podcast, c'est un podcast sur la religion.
Non, mais c'est vrai, un podcast culturel.
C'est vrai, parce que la Bible, au sens de le second livre, le second testament, n'est que une suite d'évangiles, et les évangiles, c'est une interprétation de la vie de Jésus. Et donc, c'est pas vraiment des lois comme dans la Torah, il y a les 613 lois de Moïse, et il y a les 10 commandements, par exemple, qui sont quand même les fondements de comment une société doit fonctionner.
Mais ça, tu l'as appris, Florent Assas. En histoire du droit.
De ouf.
Bien sûr, bien sûr.
Nous, on a fait des études de droit.
Mais la Torah, le premier testament est un, je dirais, le tome 1 de la Bible et le tome 1 du Coran.
Le tome.
Le Coran, il y a la Torah dans le Coran, quoi.
Ouais. Mais du coup, voilà.
Vous écoutez Flo Santerre.
Flo Santerre.
Voilà, il est 18h12, vous écoutez Flo Santerre. Une petite page musicale avec Laurie Darmon.
On s'est vraiment transformé. Tu connais l'émission le dimanche matin sur France 2, là où il parle de religion?
Ah ouais, c'est ouf. Quand j'étais petite le matin, il y avait que ça, genre KD2A, c'était fini.
Pareil.
Flo Santerre, c'est excellent.
C'est
faut faire un podcast Flo Santerre en fait.
Oui.
Et on prend des l'actu genre.
Ouais, ouais.
Mais enfin des gens qui parlent de leur rapport à leur religion, leur
non mais allô. Bon, ouais, on lance son podcast. Non. Les gens qui parlent de leur rapport
l'exil.
À l'exil et
mais sinon, racine. On l'appelle pas Flo Santerre, on l'appelle l'exil.
On l'appelle l'exil.
On l'appelle Racine.
Non. Racine ou l'exil, je me tâte.
Il a...
Vas-y, Laurie.
Non, c'est que moi, c'est pour ça que je voulais vous interviewer ensemble, c'est que vous êtes genre meilleure copine et que vous avez, mine de rien, des origines très communes. À quel point finalement des racines nous réunissent ?
Ouais. Bah, c'est vrai que déjà, moi, je remarque que quand je parle à des gens qui ont cette histoire de déracinement à un moment de leur vie, qui ont une espèce d'altérité, de rapport à l'altérité, je vais mieux m'entendre avec eux. Je ne peux pas l'expliquer.
Ouais, mais, mais qui n'en a pas ?
Ben, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas.
En,
en fait, c'est tout con, et c'est je déteste dire ça, mais l'homme blanc cis a peu de rapport à l'altérité.
Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. L'homme blanc cis, c'est qui ? C'est
bah
quoi ?
Ouais, il a des racines.
Il a des racines. Non,
moi,
non,
mon
grand
père paternel, c'était un homme blanc cis.
Oui, mais
voilà. Mais il a un putain de rapport à l'altérité, à enfin.
Non, mais j'ai rencontré beaucoup de gens au lycée qui étaient incapables de comprendre certaines de mes souffrances, alors que j'ai pu rencontrer des gens qui venaient de milieux totalement différents du mien. Qui ont pu le comprendre parce que ils avaient des histoires qui étaient assez similaires, même si ça venait pas du tout des mêmes pays. J'avais une copine au lycée, par exemple, dont la famille était iranienne. Sa mère avait dû fuir, c'était une princesse d'Iran, qui avait dû fuir et qui n'avait plus le droit de retourner dans son pays aujourd'hui. On n'avait aucun rapport, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes régions, c'est pas la même religion. Pourtant, on se comprenait sur tellement de choses. C'était comme un socle commun de genre... on est un peu dans la merde, mais à la fois.
En vrai, vous vous racontez pas ces histoires-là à la base quand vous vous. Mais il y a un truc de reconnaissance presque.
On se reconnaît.
Dans le silence. Et je pense que ça gouverne comment on devient, en fait. Donc, par exemple, dans quelles attitudes ou quelles façons de penser vous allez avoir à l'égard de telles situations qui se passent dans la vie quotidienne.
C'est ça. On va se sentir Flora, toi, tu vois bien. On se sent investi d'une mission, souvent. De genre faire une rébellion ou de dire je ne suis pas d'accord.
Ouais, mais ça c'est toi et moi. Combien de gens ont les mêmes déjà on n'a pas les mêmes racines du tout toi et moi.
Mais justement c'est ce que je te dis et c'est que
oui mais
on n'a pas les mêmes racines.
Plutôt nous on se ressemble pour plein d'autres raisons. Parce que en réalité je connais combien de personnes qui ont des racines plus proches de moi et qui me ressemblent beaucoup moins que toi.
Oui mais
toi,
si tu regardes
on peut aussi se dire on se ressemble qu'on a le même signe astrologique. Enfin moi je trouve pas que
ou la même sexualité.
Mais si tu regardes l'histoire.
Flo Saint-Air.
Il est 18h32 et vous écoutez Flo Saint-Air.
Non, mais c'est vrai que si tu regardes l'histoire des gens, je te dis pas du tout, enfin là, je dis pas du tout ça pour dire qu'on va faire des grandes choses, attention. Mais en tout cas, si tu regardes l'histoire des gens qui ont fait des choses qui ont un peu marqué l'histoire ou en tout cas changé des lois, changé des choses pour la société, c'est des gens qui avaient vécu l'altérité. C'est des femmes qui ont vécu, qui ont été victimes de viols. C'est des femmes comme Gisèle Halimi qui se sont sorties de la Tunisie patriarcale. Des femmes comme Simone Veil qui se sont sorties des camps de concentration. Des mecs comme Albert Einstein qui aussi ont vécu l'antisémitisme le plus primaire. Tu vois, partout dans l'histoire, tu es confronté à des gens qui se sentent investis d'une mission ou en tout cas qui n'ont pas envie de se taire parce que leurs ancêtres ou eux ont vécu un truc difficile. Je te dis pas forcément que c'est le truc difficile, c'est être juif ou être musulman, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas un espèce de rapport à l'altérité. Tu vois même un mec comme Cyril Dion. Tu vois ce mec ?
Très bien.
Cyril Dion, tu dis bon, il est activiste pour l'écologie, mais moi je me demande si son activisme pour l'écologie ne naît pas de justement cette altérité qu'il a vécue quand il était petit, de son rapport à l'inceste. Et je l'ai compris quand j'ai vu une interview de lui où il en parlait. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être cette souffrance-là qu'il a vécue qui a fait qu'il s'est dit, je ne veux pas être silencieux et je veux me battre pour quelque chose. Et mais je vais beaucoup plus me reconnaître dans quelqu'un justement qui a ce rapport à l'altérité, qui peut être de n'importe quel... parce que c'est un déracinement en soi.
Dans la mesure où vous avez ces origines-là et ces racines plurielles, est-ce que vous avez en tête cette question de un jour, peut-être, il va falloir que je parte et que je reconstruise tout ailleurs?
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, oui. Enfin, personnellement, je l'ai complètement, de me dire demain, des événements trop antisémites ou une montée d'antisémitisme trop importante me pousserait, oui, en effet, à m'exiler.
Non, mais moi, depuis que je suis petite, j'ai ce truc de va falloir peut-être partir un jour. Et comme je disais, une fois, ma mère, elle m'a dit, tu te vois vivre où ? Plus tard. Et je lui dis, mais moi, je me vois vivre à Paris toute ma vie, c'est la meilleure ville du monde, c'est incroyable, je suis trop bien. Et ça l'a angoissée. Elle m'a dit, Élise, ne te projette pas trop ici, parce qu'on ne sait jamais. Et elle me l'a répété sur plusieurs semaines, oh là là, qu'est-ce que ça m'angoisse que tu te vois vivre en France, c'est ce que tes ancêtres pensaient, et ils ont tous fini dans des camps et ils sont morts. Donc il y a ce truc.
Moi, c'est vrai que mon père m'a toujours éduquée en me disant cette chose qui me fait à la fois une super force et à la fois une super pression, qui est les enfants, dans la vie, la seule chose qui s'exporte, c'est son savoir. Et quand il faudra fuir, il faut que votre savoir soit suffisant pour pouvoir vous refaire, vous reconstruire où il faudra, où vous pourrez aller. Et c'est hyper stressant comme phrase, en vrai, quand t'entends ça toute ton enfance. Et à la fois, c'est hyper enrichissant parce que tu te dis, bah, il faut toujours te dépasser et il faut être toi-même assez fort, assez riche. En fait, la richesse, elle est vraiment intérieure parce qu'il faut pouvoir tout refaire où que ce soit. C'est vrai que parfois, bah voilà, j'ai un double héritage positif et négatif avec cette phrase. Je me suis déjà dit, j'aimerais bien épargner mes enfants de ça parce que c'est dur, en vrai. Ça fout la pression quand même. Et d'un autre côté, je me dis, bah peut-être que tout ce que j'ai fait, comment je me suis butée pour faire des bonnes études, pour avoir des bons tafs, au final, c'est peut-être ma richesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah la chose, enfin. Ma plus grande richesse, c'est vrai, c'est ça, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai construit moi-même, toute seule. Ouais. Et donc, c'est pas, je sais pas, j'ai pas d'héritage, mais je sais pas, un truc comme ça. Voilà, matériel, quoi, tu vois. Et donc, c'est sûr que ça, je sais pas, c'est un double héritage. Et j'ai déjà eu cette discussion avec des gens qui disent « Waouh, c'est dur de grandir avec cette phrase. » C'est bizarre de dire ça à un enfant. C'est vrai, c'est un peu intense, quoi.
Merci.
Merci à toi, Laurie. Point de vue omniscient de l'émission.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.